pas de complication là, mais ce petit... voilà, moi j'ai de très mauvais yeux, mais toi ça va. Alors, ok, merci.
Thank you. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père, en Jésus, le Christ, notre Sauveur et notre Frère. Bienvenue à vous toutes et tous ici dans ce lieu ce matin. Bienvenue aux enfants de l'école biblique, de l'éducation biblique et du catéchisme. Vous êtes ici dans une nouvelle séance d'éducation biblique avec vos moniteurs et monitrices et vous allez continuer votre chemin parmi toutes les questions qui se posent autour de la façon d'écrire l'amour de Dieu. Et nous parlerons aujourd'hui de la parole qui peut parfois devenir nourriture spirituelle et aussi vraiment nourriture matérielle, puisque vous verrez que nous parlerons du repas dans votre séance. Bienvenue à toutes les personnes qui sont ici. Peut-être certaines sont nouvelles ici, viennent pour la première fois, passent pour la première fois le pas de cette porte. Eh bien, soyez ici accueillis comme chez vous. Et vous êtes ici dans la communion fraternelle avec toutes celles et ceux qui connaissent déjà le lieu. Bienvenue à celles et ceux qui sont par le biais d'Internet avec nous ce matin. Nous sommes dans cette communion ensemble malgré la distance, malgré tout ce qui pourrait vous empêcher de vous rendre au temple alors que vous en auriez peut-être envie. Nous sommes ensemble et nous pensons à toutes celles et ceux qui ne peuvent pas se rendre dans un temple pour toutes sortes de raisons d'empêchement. Nous sommes ensemble. Dans ce début d'année, nous allons prier ensemble, nous allons louer le Seigneur et je vous invite à entrer dans ce temps de culte avec Aurélien Peter qui est à la tribune d'orgue ce matin et qui nous accompagne et nous allons chanter le premier spontané que vous avez dans le début des psautiers. Les enfants, vous prenez la petite liturgie dans le début des psautiers et vous suivez les chants. Merci. Dieu. Avec cette louange que le Père de l'Église Grégoire de Nazianze nous propose. Tu dissipes les ténèbres pour créer un monde lumineux d'ordre et de beauté. Nous te bénissons, Père des Lumières. Un monde qui porterait ta ressemblance. De raison et de sagesse, tu éclairas l'homme. Tu l'illuminas du sceau de ton image, pour que dans ta lumière, il voie la lumière, et que tout entier, il devienne lumière. Tu fis briller au ciel d'innombrables lumières. Tu ordonnas au jour et à la nuit de s'entendre à se partager le temps. Tout à coup, paisiblement, la nuit met fin au travail du corps fatigué. Le jour appelle aux œuvres que tu aimes et nous apprend à fuir les ténèbres, à nous hâter vers ce jour qui n'aura plus de nuit. Je vous invite à chanter notre louange avec le psaume 84 dans les psautiers, le psaume 84. Les strophes 1, 2 et 3, dans ta maison, je suis heureux.
Oh,
dans l'Épître aux Romains, il est écrit « Ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime son prochain a accompli la loi. » Devant Dieu, nous sommes toutes et tous dans une égalité parfaite et nous pouvons lui remettre ce qui semble difficile, ce qui nous sépare de lui ou ce que nous croyons être capable de nous séparer de lui. Éternel, devant toi, nous le confessons. Nous ne faisons pas le bien que nous voulons et nous faisons le mal que nous ne voulons pas. Montre-nous comment nous mettre d'accord avec nous-mêmes en nous montrant ton amour pour nous. Nous nous levons ensemble pour recevoir cette grâce renouvelée sur chacun de nous. Une voix s'est fait entendre du ciel au moment du baptême de Jésus. Et cette voix, c'était celle de Dieu pour nous toutes et tous. C'était celle d'un père qui aime ses enfants, c'était celle d'un parent qui prend soin de chacun. Et cette voix a dit, en parlant de Jésus, qui devenait le serviteur qui allait porter la parole à ce monde, « Celui-ci est mon enfant bien-aimé, en cet enfant j'ai mis ma joie, que cette parole nous soit adressée aujourd'hui. » Nous confessons ensemble notre foi. Nous ne sommes pas seuls. Nous vivons dans le monde qui appartient à Dieu. Nous croyons qu'il fait le monde pour le bonheur et pour la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons qu'il travaille en nous par son esprit pour nous apporter la réconciliation et le renouveau. Nous avons confiance en lui. Il nous appelle à nous rassembler pour célébrer sa présence, pour aimer et servir les autres, pour rechercher ce qui est juste et résister au mal. Nous proclamons le royaume de Dieu dans la vie, dans la mort, dans la vie après la mort. Il est avec nous, nous ne sommes pas seuls, nous croyons en Dieu. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Et aujourd'hui, pour accompagner la recherche des enfants sur tout ce qui fait la particularité de l'écriture de l'amour de Dieu, je vous propose de partager le texte suivant dans les Actes, le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 20, les versets 7 à 12. Le premier jour de la semaine, nous étions assemblés pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les assistants et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait un assez grand nombre de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme du nom d'Eutychus, assis sur le bord de la fenêtre, fut pris d'un profond sommeil pendant que Paul prolongeait l'entretien. Entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage et fut relevé mort. Mais Paul descendit, se pencha sur lui, le prit dans ses bras et dit qu'il n'y ait pas de trouble parmi vous, car son âme est en lui. Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, puis il parla encore assez longtemps, jusqu'à l'aube. Après quoi, il partit. On ramena vivant le jeune homme, et ce fut une grande consolation. Je vous invite à chanter ensemble le cantique 190 dans les louanges et prières. Donc les petits livres bleus, les enfants, et ce sont les strophes 1, 2 et 3. Et nous nous levons. Thank you. Voilà, je vais maintenant laisser les enfants partir avec leurs monitrices et moniteurs. Vous emportez un psautier, les enfants, vous l'emportez avec vous parce que vous allez parler du culte tout de suite. Et vous allez avoir votre mini-culte avec celles et ceux qui ont préparé ça pour vous. Voilà, vous pouvez maintenant ressortir par la grande sacristie comme avant. Donc, allez-y. Voilà. Voilà, et pendant que les enfants quittent le temple pour aller retrouver leur lieu de culte à la maison presbytérale, je vous invite à la prière. Et je vous invite à prier avec Nicolas Malbranche. Ô Maître, apprenez-moi à faire oraison. Aidez-moi à faire taire mes sens et mes passions ou élevez votre voix afin que, malgré le bruit confus qu'ils excitent en moi, j'entende clairement vos réponses. Mon esprit travaille par son attention, mais souvent ses efforts sont inutiles. Mon imagination inquiète et chagrine de ce que je m'applique à des sujets qu'elle n'entend pas. Où elle n'entend rien, vient à la traverse et dissipe toutes mes idées avant qu'elles aient passé jusqu'au cœur. Verbe fait chair, raison des intelligences qui avaient pris corps afin de rendre la vérité sensible à des hommes charnels, accommodez-vous à ma faiblesse. Parlez-moi d'abord un langage qui n'effraie point toutes les puissances de mon âme. Vous savez que je veux invinciblement être heureux. Donnez-moi donc dans l'oraison l'avant-goût des vrais biens afin que je les désire. Donnez-moi le dégoût des faux biens afin qu'ils me fassent horreur. Soutenez par la douceur de votre grâce l'attention de mon esprit. Amen. Qu'est-ce qui différencie une parole profane d'une parole religieuse? Est-ce qu'il faut parler de Dieu pour que nos paroles soient religieuses? Et dans ce cas, les professeurs de sciences des religions doivent-ils être tous considérés comme des personnes croyantes et confessantes? Étant donné qu'elles étudient constamment la question religieuse? Et le prédicateur doit-il ne parler que de choses religieuses pour rester dans son rôle? Où est la césure, la coupure entre le religieux et le profane? le philosophique et le théologique, le politique et l'ecclésial, le laïque et le cultuel. Il n'est pas si simple de découper ainsi les types de discours et de les enfermer dans des cases bien étanches les unes aux autres. Dans l'histoire que nous avons racontée ce matin, tout est très simple et on ne pense pas à un culte. Quand on le lit d'emblée, on ne pense pas forcément qu'il s'agit d'un culte. Paul est dans une assemblée pour manger. Il s'agit de rompre du pain. Et la discussion se prolonge jusqu'à minuit. Un jeune assistant à la discussion s'endort et tombe de la fenêtre sur laquelle il était assis au troisième étage. C'est un récit d'accident. On le déclare mort et Paul rassure tout le monde en disant qu'en fait, il est vivant. Paul remonte et partage du pain, il continue à parler jusqu'à l'aube, puis il reprend sa route. À première vue, rien de très religieux dans cette histoire. On pourrait être dans une école de philosophie, une école philosophique à la grecque, après tout. Troas, la ville dans laquelle se déroule cette histoire, n'est pas très loin de la Grèce. Bien sûr, nous savons que Paul est un témoin de Jésus-Christ et nous imaginons, nous autres lecteurs qui sommes dans un temple ce matin, de quoi il parle avec cette assemblée, qui semble tellement nombreuse qu'un des assistants est assis sur le rebord de la fenêtre, là où il reste de la place et où il y a un peu d'air. Écouter un prédicateur comme Paul, c'était sans doute comme un peu plus tard écouter Martin Luther ou Jean Calvin. C'est s'engager dans un temps long, qui n'en finit pas même. Et c'est long, l'éternité. Et le pauvre Tychus n'y résiste pas. Il en tombe de la fenêtre. C'est une histoire étrange qui nous est racontée là. Et l'épisode a de quoi nous faire sourire, sans doute. La mission de Paul pourrait y être tournée en dérision même. On pourrait se moquer de Paul qui parle tellement qu'il en endort ceux qui l'écoutent. Le discours du super apôtre a l'air tellement difficile à entendre que cela prête au sommeil, et ce n'est pas le gage d'un contenu très passionnant. La surprise est plus grande encore quand on lit sous la plume du chercheur Christian Grapp que ce récit est sans doute la plus ancienne attestation d'un culte chrétien. C'est-à-dire que c'est un texte qui nous donne la description de ce que pouvait être un culte dans ses tout débuts, dans le tout début du christianisme. Ce n'est pas la parole de l'apôtre qui permet aux chercheurs d'avancer une telle affirmation, puisque l'histoire ne parle pas du contenu du discours ou de la discussion de Paul avec cette assemblée. On ne sait pas ce que dit Paul, l'histoire ne nous le dit pas. Mais alors, d'où vient que cet épisode décrirait un culte ? En regardant de plus près le texte, on s'aperçoit d'un tissage de symboles entre eux pour constituer un tissu de références bibliques qui nous fait entrer dans un discours religieux. Mais encore faut-il avoir le code qui permette de démêler les fils ainsi entrelacés. Chaque description de cette assemblée nocturne invite à l'analogie avec d'autres épisodes bibliques qui font signe et donnent la signification de ce que l'auteur des Actes veut nous faire comprendre ici. Regardons ensemble ces éléments qui agissent comme des symboles en citant d'autres événements liés à Jésus. L'assemblée d'abord se réunit le premier jour de la semaine, dit le texte, ce qui évoque la découverte du tombeau vide dans les évangiles. Le premier jour de la semaine, les femmes vinrent au tombeau de grand matin, peut-on lire dans Luc. L'assemblée est là pour rompre le pain, ce qui fait référence au repas pris par Jésus avec ses apôtres au Cénacle. Puis il prit du pain, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna, toujours dans Luc. L'Assemblée se trouve à l'étage dans une chambre haute. Comme le cénacle du dernier repas et comme la chambre haute dans laquelle les apôtres avaient été envoyés prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ lors de la Pentecôte, là où ils ont reçu l'Esprit-Saint, c'était une chambre haute aussi. Quand le jeune homme tombe de la fenêtre, on voit Paul faire quelque chose que l'on connaît déjà chez Jésus dans l'épisode de la résurrection de la fille du chef de la synagogue, Jaïros. Dans l'évangile de Luc, il est écrit que Jésus saisit la jeune fille et la fait se réveiller, à tel point que son esprit revient à l'instant même, elle se leva, il ordonna qu'on lui donne à manger. Le terme « esprit » est celui qui est traduit dans notre texte de ce matin par « âme », « psyché », c'est-à-dire vraiment ce qui anime l'être. Le terme « esprit » est le terme employé pour dire que le jeune homme est vivant, car cet esprit est en lui. On pourrait penser que Paul souhaite qu'on le prenne pour le nouveau Jésus. Et l'histoire tout entière ressemblerait à une propagande pour la mission paulinienne. Une façon de dire, regardez, il est à l'exemple de Jésus et donc sa prédication a tout son poids. Mais il ne semble pas que ce soit la personne de Paul que l'auteur des Actes fasse résonner dans ce récit. Il prend d'ailleurs soin de raconter à la fin du récit que lorsque l'on ramène le jeune homme vivant, Paul est déjà parti. Il ne s'agit donc pas de glorifier l'apôtre Paul, mais de faire le rapprochement entre l'histoire du ministère de Jésus et une assemblée dans laquelle on refait ses gestes et où l'on parle de lui et de la résurrection d'un jeune homme. La parole ne deviendrait-elle religieuse que lorsqu'elle est mémorial des paroles et des gestes d'un maître spirituel alors ? Cet aspect mémoriel est sans doute extrêmement important pour le discours religieux. En poussant plus loin le déchiffrage de ce récit, on pourrait remonter plus loin que les épisodes de la vie de Jésus et alors les références à la foi des Hébreux apparaîtraient sans difficulté. Ainsi, la chambre haute pourrait être celle dans laquelle le prophète Élie ressuscite le jeune fils de la veuve de Sarepta. Le repas pourrait être celui de la Pâque où l'on rompt le pain. Et la mention de minuit pourrait évoquer la sortie d'Égypte au milieu de la nuit avec des pains sans levain emportés à la hâte. Remonter le temps de récit en récit constitue le terreau de toute tradition religieuse, qui relie chaque rite à un geste ou une parole, qui s'est inscrite dans la conscience et la culture de celles et ceux qui témoignent de leur foi et de leur appartenance à une même chaîne de référence scripturaire. Une question se fait jour en déconstruisant ce récit des Actes dans lequel tout semble faire signe aux disciples du Christ. Comment l'assemblée de Troas pouvait-elle comprendre qu'elle était dans un culte ritualisé où la prédication et le repas constituaient les deux centres d'un même rituel? Les membres de cette assemblée de Troas n'étaient-ils pas des païens? C'est-à-dire des personnes qui ne connaissaient pas encore le témoignage concernant le salut apporté par le Christ. Une autre dimension apparaît alors dans ce texte construit sur les racines très longues du christianisme naissant. La dimension performative du discours, c'est-à-dire que, en racontant l'histoire, on institue un nouveau rite, une nouvelle religion. En écrivant ce récit, qui allait être transmis dans les communautés de croyants, l'auteur des Actes instituait une tradition du culte nocturne ancrée dans la résurrection de Jésus et de toutes celles et ceux qui entendaient la parole de vie apportée par les apôtres. C'est un choix délibéré de cette théologie de mettre l'accent sur la résurrection pour faire communauté, et ce n'est pas une évidence. En effet, d'autres apôtres qui allaient de maison en maison, les itinérants, et qui faisaient leur ministère à la même époque, y apportaient un enseignement de Jésus en répétant ses dires, les paroles de Jésus, sans jamais aborder la question de sa résurrection. Il y avait donc là un témoignage bien différent, où il s'agissait surtout de redire une éthique de vie et d'enseigner cette sagesse à ceux qui voulaient bien l'entendre. Il ne s'agissait donc pas de parler de vie au-delà de la vie et au-delà de la mort. Il ne s'agissait pas de mettre l'accent sur l'éternité. Ainsi, le récit des Actes des Apôtres tient un discours religieux basé sur une théologie particulière qui invite à entrer dans une logique où la résurrection est centrale, et c'est un parti pris de l'auteur des Actes. Afin de comprendre ce que Jésus a apporté et comment il peut être le Christ, celui que Dieu a désigné pour apporter le salut au monde, comment il peut être sauveur? Cette théologie des Actes nous dit que c'est par sa résurrection. C'est un discours religieux parce que, tout en ne disant rien du contenu du discours de Paul, tout en ne décrivant rien, il nous fait entrer dans une chaîne d'héritage qui font sens les uns avec les autres et qui ont tous un lien symbolique avec la compréhension de l'intervention de Dieu à travers ses envoyés et à travers Jésus particulièrement. C'est un discours religieux aussi parce que, en racontant ce qui apparaît comme les liens évidents d'une tradition ancestrale, il est en fait en train de créer une tradition scripturaire et rituelle, et donc langagière, qui n'existait pas avant que ce récit soit écrit. En tout cas, qui n'existait pas comme tradition cultuelle instituée et reconnue. Ce texte crée du nouveau, tout en étant fidèle à l'héritage théologique qui le nourrit. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un discours est véritablement religieux? Est-ce parce que ce discours ne parle qu'à des initiés qui ont le code pour déchiffrer les signes qu'il transmet? Une religion comme le christianisme, qui se dit révélée, pâtirait du recours à l'initiation qui empêcherait de parler à toutes et tous universellement comme elle en a le projet. Donc l'initiation n'est pas une bonne voie. Est-ce l'invention d'une tradition pour dire son lien particulier avec le divin ou la transcendance? Dire cela reviendrait à dire que nous inventons des liens avec le divin là où le profane pourrait tout aussi bien suffire, et que le religieux n'est en fait que l'invention humaine d'une projection vers l'infini. Peut-être qu'au-delà de la tradition cultuelle qui s'invente ce soir-là dans la chambre haute, où Paul n'en finit pas de prêcher, le religieux apparaît dans les événements choisis par le narrateur et dans l'ordre dans lequel il les place, comme s'il écrivait une liturgie. S'assembler pour rompre le pain, écouter un enseignement, partager du pain et le manger ensemble, au nom d'un autre, un autre qui est venu avant nous et dont on fait mémoire, et comprendre dans sa chair ce qu'est la résurrection tout en trouvant la consolation, dans l'assurance que la vie est plus forte que la mort. Voici sans doute l'événement du culte chrétien. Voici le nouveau monde que crée cette liturgie. Voici la tradition qu'inventent ces hommes et ces femmes rassemblés dans la chambre haute. Ce qui fait que la parole devient un culte rendu à Dieu, c'est peut-être que cette assemblée est là comme dans une fête, avec ses flambeaux qui, dans l'Antiquité, sont signes de festivité quand ils sont aussi nombreux que le dit le texte. Peut-être ce temps est-il hors du temps ordinaire. C'est la part de la vie humaine qu'on consacre à Dieu. Et peut-être ce pain rompu pourrait-il être mangé seul, chez soi, tandis que le manger ensemble, c'est se remettre sous le regard d'un même Dieu, d'un même parent aimant, qui nous assure d'une nourriture qui fait vivre. Et puis peut-être que cette chute, tout incongrue, voire comique qu'elle puisse paraître, est le cœur même de l'évangile de Jésus-Christ que Paul mettra la nuit entière à expliquer et qui se révèle en un instant, à l'aube, alors que Paul est déjà parti. Car on peut lire dans une autre référence biblique que pas un petit oiseau ne tombe sans que Dieu ne le sache. Ne vend-on pas deux moineaux pour un sou ? Cependant, aucun d'eux ne tombe à terre sans que Dieu, votre Père, le sache, dit Jésus. Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Dans le récit des Actes, le premier jour de la semaine, c'est un jeune homme nommé Eutychus qui ressuscite. Son prénom veut dire « bienheureux, bien chanceux, celui qui a eu de la chance ». Il est bien heureux d'être relevé de la mort, lui qu'on avait d'abord relevé mort, pour finalement trouver en lui l'esprit. L'auteur du texte prend la peine d'écrire à la fin de cette liturgie nocturne qu'à l'aube, alors que Paul est parti, on ramena vivant le jeune homme et ce fut une grande consolation pour tous. Ensemble, les membres de cette assemblée ont traversé la nuit jusqu'à l'aube, jusqu'à la consolation que leur a procurée la résurrection de ce jeune homme, comme si elle aussi faisait signe à tous. Mort en écoutant des mots, jusqu'à ce que ces mots s'incarnent dans sa propre résurrection, lui qui n'était pas Jésus, lui qui n'était pas un maître, lui qui n'était pas plus précieux qu'un petit moineau, lui qui s'appelait bienheureux, bien chanceux. Mais au sortir de ce culte, il est vivant, d'une vie éternelle qu'aucune chute ne peut interrompre. N'est-ce pas ce que nous venons toutes et tous expérimenter dans le culte, nous souvenir que Dieu nous rend vivants, au-delà de tout ce qui pourrait nous accabler et nous faire tomber. N'est-ce pas notre propre résurrection que nous venons entendre renouveler quand nous venons dans un culte écouter une parole et quand c'est le jour de partager le pain, partager avec nos frères et sœurs la même condition humaine. N'est-ce pas pour cette éternité que nous venons rendre grâce à Dieu ? Amen. Je vous invite à chanter ensemble le psaume 107, le psaume 107 dans les psautiers. Louez Dieu pour sa grâce. Je vous invite à vous asseoir et nous allons partager quelques annonces. Et c'est notre présidente du Conseil presbytéral qui va partager avec nous ces annonces. C'est à toi, Aurore.
Merci, Béatrice. Alors, première annonce. Bonjour à tous. Non, ça, c'est pas une annonce. C'est vraiment important que vous vérifiez, et sinon vous n'hésitez pas à venir voir les conseillers qui portent un badge, que vous soyez tous inscrits à la newsletter que nous envoyons par email tous les vendredis. Parce que tous les vendredis, nous annonçons le programme de la semaine qui vient, ou même la semaine d'après, enfin les grands événements. Donc c'est vraiment important d'être abonné, ou sinon de regarder le site. Pourquoi je vous dis ça? Parce que mardi, on l'a répété plusieurs fois, et si vous n'êtes pas au courant, c'est compliqué pour nous de vous l'expliquer tout le temps, mais nous vous rappelons que mardi, 17h30, nous inaugurons derrière cette porte, la grande sacristie, avec les équipes de la ville de Paris qui nous ont aidés. Donc c'est une inauguration, j'allais dire, très officielle. Mais il y aura aussi tous les corps de métier qui seront là. Donc c'est toujours intéressant d'interagir avec eux pour comprendre comment... discuter avec le peintre, l'électricien, la calligraphie. Et également, il y aura, et nous en sommes très émus, nos anciens pasteurs qui ont passé plus d'un mandat avec nous, ou leur famille, parce que malheureusement, les anciens pasteurs, certains sont décédés. Donc, pour retrouver Agnès, James, Werner, Florence, ou discuter avec les enfants... Fat, Pierre-Don, Vasso, vraiment, n'hésitez pas, c'est ouvert à tous, ça sera mardi à 17h30. Il y aura un petit temps officiel, mais après, je vous promets, on essaie de faire les choses bien pour qu'il y ait un cocktail sympa, et toutes les familles et puis les corps de métier auront un petit badge, ce qui facilitera aussi pour vous d'aller les voir et discuter avec eux. Donc vraiment, c'est la grande annonce. Donc j'espère passer là si vous connaissez des gens qui ne lisent pas la newsletter, mais vraiment mardi 17h30, Béatrice sera aussi avec nous, bien entendu. Autre annonce, dimanche prochain, nous célébrons la semaine d'unité des chrétiens en invitant Jacques Mérienne, ici même, hein, le père.
Alors
Jacques
c'est
Mérienne.
C'est la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, mais ce n'est pas encore acquis.
Alors tu fais bien de me dire ça, parce que...
Parce que je fais la même erreur à chaque fois, mais c'est la prière pour l'unité des chrétiens. Et donc il y a encore du travail, messieurs, dames.
D'autant plus qu'il y a un gros travail, parce que figurez-vous que le thème de cette semaine, tu le connais ?
Alors, c'est « Crois-tu cela ?»
Oui, mais avec quoi en petit machin marqué sur l'affiche ?
Ah, alors, j'ai pas vu le petit machin.
Les 1700 ans du Concile de Nicée.
Ah, mais voilà. Et donc, c'est tout à fait en lien avec notre feuille rose.
Et voilà. Donc, le Concile de Nicée s'est prononcé sur la divinité ou pas de Jésus-Christ. Donc, c'est assez intéressant de savoir que la semaine de prière pour l'unité des chrétiens sera sur ce sujet. Parce qu'il y a une petite subtilité dans l'ordre des mots. Alors vous savez, dans la dernière feuille rose, on avait travaillé pour savoir si nous étions républicains d'abord, ensuite laïcs et après protestants. Ces petites subtilités dans la place des mots veulent parfois dire beaucoup. C'est le thème de notre feuille rose où nous posons la question, est-ce que Jésus est fils éternel de Dieu ou fils du Dieu éternel ? Eh bien, sachez que... un monsieur, Michel Servet, a fini brûlé par Calvin pour avoir dit qu'il pensait que Jésus était d'abord fils du Dieu éternel. Voilà, donc vraiment lisez ça, et puis du coup vous pouvez en discuter, la distribuer également à nos amis catholiques toute la semaine prochaine ou autre. C'est vraiment un sujet important. Et puis ça rappelle aussi les fondamentaux du pourquoi nous sommes ici.
Et c'est donc le père Jacques Mérienne, qui est un ami de l'oratoire, qui viendra prêcher. Et nous aurons la joie de partager ce culte tous les deux.
Voilà. Et passe-lui la feuille rose avant, parce qu'il risque d'avoir des questions.
Non, je pense qu'il est, il est tout à fait...
Non, pas pour trouver les réponses,
débat,
mais pour être au courant de la réflexion que nous menons en ce moment. Ah, oui. Voilà donc ces deux grandes annonces. La librairie est ouverte, également... La route 26, Scout a une petite annonce à vous faire, je vous le passe tout de suite.
Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous et à toutes. Alors, pour faire une petite explication rapidement. Du coup, il y a une nouvelle branche aînée, ou route, comme vous les appelez, qui s'est créée en septembre-octobre. Donc, on est vraiment aux prémices de notre projet. Donc, on n'a pas encore de ligne directrice. Mais on compte sur vos dons pour nous aider. On est juste à la sortie avec des petites sucreries et je sais pas, pas de saleterie du coup, mais des petits trucs salés et des petits trucs sucrés pour vous. Donc si ça vous tente, vous pouvez passer nous dire bonjour et prendre une petite part. Merci beaucoup.
Voilà, je rappelle que la route, c'est le moment où les grands éclaireurs, devenus grands donc, font eux-mêmes leur projet, et souvent un projet de solidarité, un projet qui est orienté vers d'autres, et ils vont aider parfois à l'étranger, souvent à l'étranger, des personnes qui ont besoin de leur aide, et donc nous vous souhaitons de trouver un beau projet.
Et nous n'avons aucun doute sur le fait que vous allez en trouver un. Merci à tous, c'est le moment de l'offrande. Nous n'avons pas encore fini les chiffres 2024, mais tout a l'air d'aller bien, donc c'est une très très belle nouvelle aussi. Immense merci à tous ceux qui nous ont aidés en 2024 et qui ont déjà commencé 2025. Vous savez que nous avons malheureusement 80% des ressources que nous recevons, nous les avons en novembre et décembre. C'est merveilleux si vous arrivez à penser tous à la mensualisation, ça évitera beaucoup de stress et d'angoisse des équipes qui, je vous le rappelle, du Conseil presbytéral sont entièrement bénévoles. Merci à tous et bon dimanche. Merci. Et à mardi.
Je vous invite à la prière. Éternel, nous te prions pour notre monde, avec tout ce qui le défigure et pour lequel souvent nous ne savons que faire. Éternel, nous te prions pour toutes celles et ceux qui cherchent un infini au-delà de ce qui les retient dans le malheur. Nous te demandons d'être de ces maisons, de ces lieux où ta parole peut retentir comme une parole d'espérance pour toutes celles et ceux qui cherchent un horizon dans les ténèbres de leur vie. Éternel, nous te remettons toutes les personnes qui font du religieux une arme et nous te demandons de les convertir, de changer leur cœur, de pouvoir faire en sorte qu'ils découvrent cette liberté immense que tu nous donnes pour faire le bien que tu veux que nous fassions. Permets que nos lieux de religion ne soient pas des lieux d'affrontement, des lieux où le mal perdure, des lieux où ta parole glisse sans porter de fruits. Éternel, rends-nous fertiles pour ta parole et permets que nous puissions être des signes visibles de ta grâce dans ce monde. Éternel, nous te remettons les peuples qui sont dans la recherche de leur avenir et qui construisent pas à pas un lendemain dont ils ne connaissent encore rien. Donne-leur la liberté d'inventer un nouveau monde et de donner plus de bonheur à celles et ceux qui vivent ensemble dans leur pays. Nous te présentons notre propre société pour qu'elle puisse se réinventer sans cesse et qu'elle puisse faire germer des signes d'espérance au milieu du chaos apparent. Permet que nos gestes, nos paroles contribuent à cette liturgie que tu veux pour nous et qui invente un nouveau monde où ton esprit puisse régner. Et ensemble, nous te disons cette prière de confiance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. L'Éternel vous envoie dans ce monde pour porter sa parole avec joie et de façon conséquente. Allez et parlez de cet amour que vous avez vous-même reçue, à ceux qui en ont besoin. Le Seigneur vous bénit et vous garde dans sa grâce et dans son amour. Amen.